Nos auditeurs ont la parole. Du lundi au jeudi, retrouvez le Forum Radio Shalom de 18h30 à 19h. Un seul numéro, le 01 43 36 04 06.
01 43 36 04 06.
Venez donner votre avis sur l'actualité et réagir en direct.
Alors la question du forum des auditeurs ce soir, 25 ans après le départ du Rabbi, alors on a tous vu que c'était Guimel Tammuz samedi, donc c'était l'anniversaire de son départ. Et on voit aussi que les Lubavitch n'ont jamais été aussi forts. Je crois que de l'époque du Rabbi, il n'y avait pas autant de shlichim, de bater chabad de gens à travers le monde qui sillonnaient les rues pour mettre les téfilines aux gens dans les rues. Pourquoi, selon vous, alors qu'il faudrait imaginer, qu'on aurait pu imaginer, au contraire un affaiblissement d'un mouvement qui perd son leader, pourquoi, au contraire, c'est allé encore plus fort et plus vite depuis maintenant 25 ans? On prend tout de suite un premier appel au 01 43 36 04 06. Bonsoir.
Bonsoir, merci encore pour vos émissions qui flagellent les neurones. D'accord ou qu'on soit pas d'accord, mais ça fait avancer les choses.
Votre prénom?
Shlomo ou Sylvain en français.
Sylvain, Shlomo de Paris?
De Paris, oui, de Paris.
Alors, votre avis?
Parisien, d'ailleurs.
Alors, votre avis, oui. Shlomo?
Alors, mon avis, c'est que... ils ont une force qui est la foi qui déplace les montagnes. Moi, je les vois, ils sont actifs, ils sont partout. Je les vois, Bouvard Voltaire, partout même. Et dans, moi, je suis dans une synagogue consistoriale, dont je suis un des administrateurs.
Ah,
à
oui.
Un moment donné, on avait un problème de Talmud Torah. Il y a un rabbin de Lubavitch qui est venu, et de seul coup, on avait 40 élèves, alors qu'on avait plus, on avait que 2-3 élèves. Ils ont une force fantastique, il faut leur reconnaître ça. J'ai eu l'occasion de voyager en Afrique pour mon travail. J'ai été au Kenya, j'ai été au Cameroun, j'étais partout. Ils sont là, il n'y a pas de problème. Ils sont un peu moins nombreux au Gabon.
Au Cameroun, ouais. Bizarre.
Au Cameroun, il y a des battes, il y a des battes rabat.
C'est
extraordinaire, vous êtes partout et vous êtes tranquille, vous arrivez. Et ils n'ont pas, surtout ils ont une grande tolérance. Moi je suis pas, je suis traditionnaliste, hein. Ils ont une grande tolérance, ils ne sont pas là à vous dire, ah, faut pas mettre ceci, cela, faut mettre ça. Non. Ils vous parlent doucement, ils vous accueillent. Ils ouvrent des petits endroits magnifiques. Où il y a
alors, je, d'abord déjà la première. Non, c'est moi qui vous interromps, pas du tout. C'est vous notre invité. Quand vous dites je gère une petite communauté, c'est laquelle?
C'est une synagogue consistoriale. Je suis administrateur.
De où? De où?
Président. Shifté Israël dans le 12e.
Du 12e arrondissement. Donc il y a 3 enfants. Il y a un Lubavitch qui vient. Et maintenant vous en avez 40.
Voilà.
Et maintenant, il y en a 40.
Voilà.
Alors, je vous raconte.
Il est parti parce qu'il a lui-même monté,
son bet rabat.
Ils ont monté leur bet rabat où ils font des fonds fantastiques. C'est le Rav Martinez. Je sais qu'il va dans des écoles, même chrétiennes, où il fait des discours, il fait des débats, etc. Donc, il a vraiment une présence qui est extraordinaire. Il faut lui reconnaître ça. Et moi, je dis que c'est bien. Ils choisissent la vie. Ils choisissent la vie. Ils disent qu'il faut aller de l'avant. Ils ont raison. Moi, je peux pas prier, par exemple, devant, par contre, effectivement, le portrait de Rabbi Lubavitch, parce que je suis un inconditionnel du monothéisme, j'arrive pas à prier devant une image ou à côté d'une image.
Ah oui.
Mais ce n'est que ça, hein.
Uh-huh.
Hein. J'aurais celle de Freud ou j'aurais celle de quelqu'un d'autre, peut-être pas, mais ce serait pareil, c'est un tonneau. Voilà, non, ils choisissent la vie. Et ils ont une foi extraordinaire.
Alors moi, je vais vous raconter une histoire, une anecdote qui a 2 jours, pas plus que ça. La semaine écoulée, j'étais à Copenhague.
Oui.
Et à Copenhague, au Danemark, j'ai vu vraiment ce qu'on appelle la vraie Shlichut. Parce que vous avez aujourd'hui des envoyés, des Shlichim, des envoyés, des responsables Chabad, à Paris, à Saint-Mandé, à Charenton, qui font un travail d'ailleurs tel que vous le décrivez. Mais enfin bon, on est à Paris, il faut aller à Copenhague. Croyez-moi, il faut aller à Copenhague.
Il faut voir
la rabbanite. Nous, on vient, on est en touriste. Elle nous accueille, on a sonné chez elle, on s'en est même pas rendu compte. On croyait qu'on sonnait au Beit Rabban. Elle descend, elle a 35 ans, elle a les cernes sous les yeux, elle est enceinte. Je lui demande combien vous êtes de Lubavitch. Je lui dis sur tout le Danemark, on est 11. Mais 11 avec ses enfants. Et vous voyez et ils ont ramené des centaines d'enfants dans un pays où ils sont même pas sûrs s'il y a 5000 juifs.
Voilà, c'est ce que je vous dis.
Les voir. Il n'y a pas de vacances. Elle est chez elle, enceinte, en plein été, en pleine fatigue. Ouais. Elle descend les escaliers, elle vient vous ouvrir la porte, elle se plaint même pas. Il faut voir.
Dans une autre dimension, il faut leur reconnaître ça, il faut les respecter pour ça.
Uh-huh.
Et moi, je sens qu'ils sont beaucoup plus tolérants que d'autres abbades et hyper religieux, hyper pratiquants. Et eux, ils ont cette gentillesse, cette simplicité d'avoir la main ouverte et le cœur ouvert. C'est ça leur force.
Magnifique.
Et moi, je suis admiratif. Je ne les suis pas à 100%, mais je suis admiratif pour tout ça. Voilà. Et je dis qu'ils doivent continuer, et j'espère qu'ils vont continuer. Voilà. Parce que c'est un pôle important de du judaïsme mondial.
Du judaïsme contemporain. Sylvain, dans le 12e arrondissement.
C'est moi.
Merci.
Bon, merci de m'avoir écouté et m'avoir laissé parler. Je vous souhaite une bonne soirée.
Moi aussi. Merci pour ce coup de fil à Radio Shalom au 01 43 36 04 06. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce forum. Vous continuez de nous appeler. Et dans une minute, on va être avec le responsable de la communauté juive de Shanghai.
Radio Shalom.
Radio Shalom.
Radio Shalom 01 43 36 04 06 01 43 36 04 06. Vous avez la parole tous les soirs et ce soir on pose la question de savoir pourquoi, selon les uns et les autres, évidemment on n'a pas la science infuse comme on dit, mais d'après vous, pourquoi 25 ans après le départ du Rabbi, les Lubavitch sont-ils toujours aussi forts? Moi j'ai même l'impression qu'ils sont encore plus forts. Et nous sommes en ligne à présent avec le président de la communauté juive de Shanghai, en Chine, Maurice Ohana. Bonsoir Maurice.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir en ligne avec nous. Vous avez commencé avec deux juifs à Shanghai, si je ne me trompe pas. Vous et votre fils, voilà. On commence oui.
À peu près, oui.
On commence comme ça. Et vous m'avez dit tout à l'heure, hors micro, vous m'avez dit, Bernard, c'est très simple. Si aujourd'hui vous avez des centaines de, peut-être même des milliers de gens qui suivent votre communauté à Shanghai, qui est tout simplement l'un des centres du monde, mais vous étiez que deux au départ. Et vous m'avez dit, Bernard, c'est très simple. Si j'avais pas eu le Shaliach Lubavitch, on serait pas resté en Chine.
C'est exact. Nous sommes arrivés, il y avait personne. Même ma femme était très craintive, elle me dit, on va pas rester dans un pays où il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien. Et les choses ont fait que quelques semaines après, le Rabbi Lubavitch, il envoie un émissaire à Shanghai. Et c'est celui que vous avez connu, Shalom Greenberg.
Qui est maintenant le grand rabbin de Shanghai.
Le grand rabbin de Shanghai qui gère tout. Pour aller vite, ça m'a rassuré. Et à partir de ça, on a créé une communauté. Bon, je vais très vite, mais ça a mis plusieurs petites années. Mais c'est pas ce qui est intéressant. Quand il est arrivé, il a créé une vie juive qui n'existait pas du tout. La cacheroute, la baisse sur les synagogues, le mikvé, tout ce qu'il faut pour vivre une pratique juive. Mais il n'y a pas que ça. On a, dans un pays très compliqué, très difficile, où il y avait des murs partout, la religion, c'est pas une pratique chez les Chinois, et il a fallu qu'on casse des murs. Et il est arrivé, par une volonté farouche, de dire, aujourd'hui, on était la première à Shanghai. À Shanghai seulement, on a quatre synagogues Lubavitch.
Quatre synagogues Lubavitch.
À Shanghai seulement, oui, c'est... C'est une ville très très étendue et c'était très difficile de mettre tous les juifs dans le même quartier. Donc comme c'est étendu, on a mis des quatre synagogues un peu éparpillées dans Shanghai. Mais c'est pas ça seulement. Il n'y avait rien en toute la Chine. Shanghai, après on a fait Pékin, on a fait Shenzhen, on a fait Shaoxing, on a fait Ningbo. Aujourd'hui, pour aller vite, il y a 12 villes en Chine où il y a une synagogue Chabad. 12 villes. Et il n'y a pas que ça. À un moment, j'avais ce rabbin extraordinaire, mais ashkénaze. Et je lui dis un jour, j'aimerais bien qu'on ait un rabbi séfarade, parce que c'est... Il y a plusieurs séfarades dans la communauté, on va compenser les choses. Donc on a contacté des rabbins séfarades, particulièrement en Israël, en Europe. Les salaires étaient énormes, ils voulaient chacun 15 et 20 000 dollars par mois, plus la voiture, le chauffeur, les assurances, bref, des sommes énormes.
Qui réclamaient.
Et on contacte.
Que réclamaient
les salaires qu'ils voulaient avoir.
Ouais, les candidats potentiels pour être rabbin à Shanghai.
Et diriger une seconde et synagogue qu'on voulait monter à l'époque. Et c'était énorme pour nous, la communauté ne pouvait pas subvenir à ses frais. Qu'est-ce qu'on a fait? Il me dit, contacte un Chabad, on verra toujours. Parce que pour moi, les Chabad étaient plus ashkénazes que séfarades. Mais on a eu quand même un séfarade, Lubavitch, à qui j'ai téléphoné, je lui fais la proposition de venir à Shanghai, je lui dis, comment vous voulez? Extraordinaire, je ne peux pas oublier ce jour-là, il me dit, je ne sais pas, je viens, et puis on verra, vous offrirez ce que vous pourrez m'offrir. C'est-à-dire, j'avais dans ma tête 20-25 000 dollars, contre zéro, pour l'instant, bon. Évidemment, leur force, c'est quand il est venu, après, on lui a donné un salaire, on lui a fait des assurances, on lui a donné un appartement, on lui a tout donné, mais c'est la manière de faire qui est extraordinaire.
Alors,
ils ont une émouna, pour eux, rien ne les arrête. Rien. J'ai eu des anecdotes, ce serait très long à vous raconter, avec eux. Après, c'est deux rabbins, après, c'est trois rabbins Ashkenaz. Lubavitch. Et ça a été, pour moi, une découverte de ce groupe religieux qui est extraordinaire.
Attendez, Maurice. Je sais que vous êtes loin, mais je vais vous interrompre parce que je voudrais bien que comprennent les auditeurs, parce que vous m'avez raconté cette histoire et je voudrais vraiment qu'ils comprennent. Donc vous dites, je veux faire venir un rabbin séfarade. Il vous demande 25 000 euros par mois.
Oui.
Il vous demande la voiture, il vous demande, y compris ça, ça lui suffit pas.
C'est ce qu'il faut pour vivre en Chine.
Maurice, je continue.
C'est quelqu'un qui a une responsabilité.
Et en dehors de son salaire, il vous dit non, mais le salaire, 25 000 euros. Hein. Il vous dit, c'est pas suffisant, il faut aussi payer l'assurance de la voiture. Il faut la voiture et que vous payez aussi, vous, l'assurance. Bon, vous, la communauté,
oui,
vous n'en pouvez plus.
Et le chauffeur.
Vous vous dites, non, je vais appeler un Lubavitch. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on entende. Parce que le Chabad, il vous dit, le Lubavitch, il vous dit, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas.
Oui.
On verra sur place pourquoi. Lui, il veut faire la mitzvah. Il veut être chaliach. C'est ça qui est intéressant.
Oui, revenir. C'est ça, bien sûr. Et alors, croyez-moi, j'avais une angoisse tous les samedis matins. Pas pour moi, parce que moi, bon, je pouvais passer un peu à côté, de savoir qu'on n'avait pas, des fois, le minyan, pour eux. Parce que pour eux, c'était important d'ouvrir le Sefer Torah le samedi matin. Et j'étais très angoissé tous les samedis d'aller chercher le minyan pour qu'on soit pour eux. Parce qu'ils en fait tellement pour nous que je voulais toujours le leur rendre. Mais bon, il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes sur les Lubavitch. Je ne sais pas c'est le temps que vous me donnez, mais on peut raconter. Ben, tous les Shabbats, nous recevons 150 personnes à table. Dans une ambiance extraordinaire, grande chaleur, une amitié, ça c'est eux qui l'ont fait, voilà.
Et oui, ils ont monté un...
Autrement...
D'abord déjà, je voudrais dire, parce que j'ai eu la chance de voir ce Beit Chabad au tout début, hein, c'était, je sais pas comment il est maintenant, mais...
Il est venu à Shanghai.
La rabbinite, la femme du rabbin, elle, à l'époque, quand elle crée cette communauté, elle est la seule femme religieuse de toute la Chine, c'est-à-dire qu'elle est avec ses enfants, elle est jeune, elle a bien moins de 30 ans, et elle a tout donné, elle a personne qui est comme elle, personne pour...
À l'époque, elle a moins de 30 ans, 24 ans, et déjà, je crois, 3 ou 4 enfants, et il fallait gérer la cuisine, la synagogue, contrôler la cacheroute parce qu'il n'y avait personne pour le faire, et cette femme a été extraordinaire, elle l'a fait pour la mitzvah de créer une vie juive à Shanghai et cachère surtout.
Mmh. Avec un mikvé, avec un... Et par exemple, un autre exemple...
Il y a eu l'histoire de la Shechita, qui est une très belle histoire, et c'est encore eux qui l'ont fait.
Raconter.
Il y a un rabbin à Shanghai pour faire la Shechita, pour créer... pour nous donner la viande cachère. C'était pas facile aussi, on est arrivé à... Et c'est grâce à eux. Alors là, Emouna, je vous raconte pas... Des fois, on fait le point un peu financier parce qu'il faut faire ça et faire les travaux, construire. Et je lui dis, bon, on va trouver ça. Et tout de suite, t'inquiète pas, Maurice, je fais quelques prières et les choses vont s'arranger. C'était toujours comme ça. Bon, je voulais bien ne pas y croire, mais en tout cas, moi, j'ai vu des réalisations se faire qu'avec ces prières et qu'avec leur pensée du rabbi.
Incroyable.
C'était toujours là pour eux à chaque instant.
Alors, officiellement, la Chine est officiellement... Officiellement, la Chine est toujours un pays communiste, même si c'est le plus grand pays capitaliste du monde. Et donc, un jour, le gouverneur de Shanghai dit, faut quand même que j'aille voir qu'est-ce qui se passe, parce que la religion est interdite, normalement. Alors, vous lui dites, vous avez un restaurant cachère, là-bas, que vous avez monté, c'est pas permis.
Voilà.
Et vous lui dites, venez vendredi soir, parce que le vendredi soir, le rabbin reçoit tous ses amis. Alors qu'en fait, c'est le truc cachère, quoi. Donc, mais c'est pas chez lui. Enfin, il est au premier étage. Mais bon, voilà, venez, parce que comme ça, le rabbin reçoit tout le monde chez lui. En fait, c'est la restauration cachère que vous avez créée sur place avec une idée simple qui était, je ne veux qu'aucun juif passe à Shanghai, il n'ait pas la possibilité de manger cachère, surtout les hommes d'affaires. Et donc, le gouverneur vient.
Exact.
Et le vendredi, on paye pas, puisque c'est Shabbat. Et il croit que les gens sont en train de dîner dans la salle à manger.
C'est tous ses amis, exactement. Exactement. Et alors, il faisait pareil pour les juifs qui ne pouvaient pas venir à la synagogue, dans un hôtel. Il leur portait les repas. dans des hôpitaux, il leur postait dans les hôpitaux les repas, c'était extraordinaire. Il a même tenté sur China Airlines de fournir les repas cachers pour être sûr que les gens qui voyageraient en Chine, les juifs qui voyageraient en Chine pourront avoir la nourriture cachère dans les avions. Il a fait un très gros travail.
Et donc vous commencez à deux et maintenant vous êtes combien dans toute la Chine, organisé en communauté?
On est plus de 6 000. On est plus de 6 000 aujourd'hui. Mais je peux vous raconter une chose très intéressante encore, une rapide, j'essaye. Ces enfants, tous les enfants du rabbin et d'autres assez religieux, ne vont pas à l'école comme tout le monde. Ils sont dans leur maison devant un ordinateur. Et le professeur, il est à Brooklyn. Et ce professeur de Brooklyn, il est devant un écran qui est aussi reçu par à peu près 30, 40, 50 enfants qui habitent en Asie. Donc il se réveille, lui, très tôt le matin ou dans la nuit, pour être en accord avec le décalage horaire. Et il donne des cours à ses enfants. Et il donne le même cours à celui qui est à Shanghai, ou celui qui est à Pékin, ou celui qui est à Séoul ou à Tokyo, que celui qui est à Bangkok. Tous les enfants, le même cours. Les enfants ne se connaissent pas, mais ils se connaissent. C'est à travers les écrans, ils se parlent. C'est-à-dire que, technologiquement, ils ont fait, là aussi, une prouesse formidable. Tous les enfants Lubavitch en reçoivent le même cours, tous les jours. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué. J'ai été à Brooklyn, et j'ai vu les profs qui passaient de décalage horaire en décalage horaire pour le monde entier, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Amérique latine, c'était les mêmes cours. Et ça, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. C'est le rabat qui a monté ce truc-là.
Voilà. Boris Ohana, voilà. Et vous n'êtes pas Lubavitch d'origine, vous êtes juif marocain, parti vivre à Shanghai. On a un autre appel, on va prendre quelqu'un d'autre. Merci Maurice. Merci à vous pour ce très joli clin d'œil, président de la communauté juive de Shanghai. Merci à vous. Et d'ailleurs, évidemment, par conséquence, président de la communauté juive de Chine. 01 43 36 04 06 01 43 36 04 06. On va prendre un dernier appel. Il nous reste quelques minutes. Je voulais absolument qu'on entende Maurice Ohana nous parler de son Beit Chabad. Même moi, je savais pas qu'il y en avait déjà 12 en Chine. J'étais resté encore sur Shanghai. On prend un vrai appel. Bonsoir.
Oui, bonsoir Bernard. Voilà, moi, j'ai une petite expérience. Je suis parti en Inde.
Votre prénom. Alors, d'abord déjà, éteignez votre poste, s'il vous plaît. Deuxièmement, donnez-nous votre prénom et la ville d'où vous nous appelez.
Denis de Paris.
De Paris, allez Denis. Éteignez la radio parce que ça fait
écho. Voilà, c'est ça. Oui.
Alors donc, vous partez en Inde.
Voilà, je suis parti en Inde parce que je connaissais pas, puis j'ai des problèmes de dos. Donc j'ai été voir un petit peu pour voir si le yoga ça m'aurait pas aidé et tout. Bon, enfin, je suis resté à Bombay, après j'étais à Pune, et j'ai fini à Goa, donc je suis resté un mois. Et en revenant, je savais qu'il y avait les Lubavitch à Bombay. Et vous savez ce qui s'est passé en 2008 à Bombay, là, avec...
L'attentat.
Voilà, l'attentat et tout ça, bon. Et donc, comme je mange cachère aussi, je savais qu'il y avait que là-bas, je pouvais manger un repas au moins en un mois, quoi. Alors, donc, j'en ai profité, j'ai été... Donc, je suis rentré, au premier, il y a un restaurant, et deuxième, il y a les bureaux, et troisième, quatrième, ils ont conservé encore le dans l'état, quoi, en fait... quand il y a eu l'attentat, qu'ils ont tué le rabbin et la rabbinite, quoi. Et c'est vraiment bon. Ils l'ont fait en musée, quoi. En fait, on revoit que vraiment c'est horrible, quoi, ce qui s'est passé là-bas et tout. Et donc, bon, le premier repas, vous ne pouvez pas savoir comme j'étais content d'arriver chez les Lubavitch, quoi. Et comment vous êtes reçu et tout. C'est pour ça que. Et mon premier repas cachère depuis un mois. Donc, comment je pouvais pas ne pas apprécier, quoi. Vraiment, c'était vraiment fantastique, quoi. Vraiment, c'était. Voilà. Et les Lubavitch, moi, je veux dire, et je passe un petit peu de temps à Elat des fois, et puis je reçois beaucoup, ils font beaucoup, même pour des gens seuls et tout. Vraiment, ils font énormément, vraiment, et je comprends pas qu'il y ait beaucoup de gens qui les critiquent et tout, et vraiment, bon. Voilà, Bernard.
Eh ben, très bien. Très, très joli témoignage. On a tout fait. On a fait Shanghai, Bombay, Copenhague. Mais
ouais, puis, magnifique. J'ai bien apprécié là aussi, là.
Et même dans le 12e.
Mais oui.
Merci Denis.
Merci à vous Bernard.
Merci Denis.
Bonne continuation.
Merci. Voilà, cette émission est à présent terminée. 25 ans donc, 25e Hiloula du Rabbi de Lubavitch. Excellente soirée à tous. Si vous voulez nous écouter très loin, bah tiens par exemple à Shanghai, mais en plus je ne vous mens pas, Maurice Ohana nous écoute à Shanghai sur radioshalom.fr, sur le net. Shalom s'écrit avec un S. Vous prenez votre téléphone, vous tapez tout simplement radioshalom.fr, Google vous donne l'adresse. Excellente soirée à tous, dans un instant le journal de Pierre Gantus.